Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 22 août 2023. La semaine promet d'être longue. Nous passons la première partie de cette semaine à attendre la seconde partie. Et quand nous aurons les informations de la seconde partie, nous passerons la seconde partie de la semaine à expliquer pourquoi on avait tort, mais qu'en fait on n'avait pas vraiment tort, mais plutôt qu'on était moins faux que prévu et que c'est juste le marché qui n'a pas compris. Bref, cette semaine on parlera de la Chine, de Nvidia et de Jackson Hole avec le discours de Powell qui est prévu vendredi. Bref, vivement lundi, on pourra parler aussi du mois de septembre et de l'anniversaire de l'effondrement de Lehman Brothers. Nous allons donc prendre les choses dans l'ordre. Tout d'abord, hier matin, il y a eu la Chine qui a lancé une tentative de faire croire qu'elle faisait un stimulus. Une tentative que je qualifierais de désespérée quand on voit ce qu'ils ont annoncé. Pour être franc, je ne sais pas ce qu'ils attendaient comme réaction, mais quand tu annonces que tu vas baisser les taux des crédits de 10 points de base et que tu attends que ça change la face du pays et la perception que le monde en dehors de la Chine en a, c'est que tu dois fumer des produits prohibés. L'annonce d'hier aura donc été considérée comme un coup d'épée dans l'eau. Et la seule chose de positive que l'on peut en retenir, c'est qu'au moins on est certain que le gouvernement est bien en place et qu'il veut vraiment faire quelque chose. Sauf qu'il ne sait pas trop quoi faire. Alors il y va par petites touches délicates, tel un peintre qui voit naître son œuvre sous les coups de pinceau. Même si là, on est vraiment à l'esquisse et on ne voit vraiment pas où ils veulent aller. Le marché ne fait donc rien, ou plutôt le marché merdouille en Chine, parce que nous sommes toujours dans la position du « quand ça veut pas, ça veut pas ». Donc c'est tentant de tout shorter, mais on a peur parce qu'on sait quand même que le gouvernement veut vraiment faire quelque chose pour relancer l'économie et qu'ils sont capables d'exécuter les shorts sur la place publique pour faire un exemple. Bref, la Chine, c'est pas simple, ça va nulle part. Et c'est pas simple. Hier, lorsque l'on regardait la performance des marchés, on a bien compris que c'est le Nasdaq qui menait la danse. Les marchés européens ont ouvert dans le vert et on a ensuite passé le reste de la séance à s'effriter lamentablement dans des volumes misérables. Il faut dire que tout le monde a le trouillomètre à zéro, sachant ce qui nous attend ces prochains jours. Il y a d'ailleurs une headline de ce matin qui résume assez bien la chose. MarketWatch disait que le marché pourrait bien rebondir cette semaine, mais que les analystes mettent en garde contre le fait que le sell-off de l'été pourrait être qu'à mi-chemin. Alors juste une question, les analystes en question, c'est les mêmes qui nous ont juré pendant des semaines et des semaines, les 8 premiers mois de l'année, que ça pouvait pas monter aussi fort et aussi vite et qu'il fallait tout vendre, et qui sont ensuite venus nous dire début août que non, en fait, il fallait bourrer la caisse et acheter le marché pour ne pas rater la hausse. Non, parce que si c'est bien les mêmes, je préférerais autant qu'on nous parle d'autre chose. Hein. Tout ça pour vous dire que pendant que les marchés classiques faisaient la tête et se demandaient bien ce qu'ils allaient faire à 48 heures des chiffres de Nvidia, il y a quelques titres qui ne se posaient pas trop de questions dans le secteur de la tech, dont Nvidia d'ailleurs. Et si l'on regarde la performance du Nasdaq, il a repris près de 3% en deux séances. Et quand on regarde à l'intérieur du Nasdaq, on se rend compte que la performance d'hier a été le fait de quelques-uns uniquement. En tête de gondole, il fallait citer Palo Alto, qui a cartonné sur ses chiffres de vendredi dernier et qui s'envolait de près de 15% pour fêter ça. La cybersécurité est à la mode, il suffit de lire les journaux pour le comprendre. Ensuite, il y avait Moderna. Alors Moderna, eux, c'est un tout petit peu différent. C'est parce qu'on se prépare au retour du Covid. Et que grâce à l'intelligence artificielle qui pense plus vite que les chercheurs, ils ont déjà trouvé un vaccin trop cool pour lutter contre la nouvelle souche terrifiante du Covid qui arrive chez nous pour la rentrée. Le titre bondissait de près de 10%. Ensuite, il y avait les usual suspects habituels. Alors Nvidia et Tesla. Alors Nvidia, on va pas revenir sur les chiffres de mercredi soir after close et du fait que tout le monde s'attend à des chiffres explosifs, stratosphériques, fantasmagoriques. Ou alors que Nvidia nous annonce une croissance de 2% et qu'il nous dise que bah, le reste de l'année sera compliqué. En résumé, on n'en sait rien. Au fond de nous, eh bien, on est convaincu qu'ils vont nous sortir des chiffres de fou et que ça va relancer le bull market dans la tech. Et de l'autre côté, la confiance n'est pas facile à donner, ni à trouver d'ailleurs. Mais hier, il y avait tout de même l'analyse de HSBC qui avait le courage de faire un pas en avant et d'upgrader Nvidia avec un objectif de prix à 780. Nvidia a repris 17% depuis une semaine, mais se traite tout de même à 469 $. Ça fait donc encore un sacré bout de chemin. On peut quand même se demander si l'analyse de HSBC n'a pas trouvé son price target sur ChatGPT. Mais passons. Le titre a donc pris 8,2% pour fêter ça. Et pour terminer la liste des titres en fête d'hier, il y a eu Tesla qui a profité de commentaires positifs de la part d'un banquier d'affaires pour prendre plus de 7%. Il cite le catalyste du Cybertruck et les baisses des prix qui devraient permettre à Tesla de cartonner. À ce propos, je m'interroge. À chaque fois que Tesla baisse les prix de ses sèches-cheveux de 10%, tout le monde trouve ça génial et pense que c'est un catalyste. Pourquoi est-ce qu'ils ne donnent pas tout simplement leur voiture directement? Comme ça, tout le monde roulerait en Tesla et le problème de la concurrence sera réglé en 2 ans. Et puis, bien sûr, la dernière chose qui nous occupe, c'est ce que va dire Powell à Jackson Hole vendredi. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'en sait foutrement rien. On s'est tellement vautré sur ses intentions l'an dernier que personne n'ose reprendre les paris. Va-t-il s'exprimer sur la suite à donner au sujet des taux? Va-t-il se déguiser en colombe avec une plume dans la poche du costard? Ou est-ce qu'il va dire qu'il faut encore travailler et qu'il faut savoir raison garder et que la peur est le chemin vers le côté obscur? La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance et que difficile à voir, toujours en mouvement est l'avenir, mais quoi qu'il en soit, la force est avec nous. En gros, on n'en sait rien, mais on attend la fin de la semaine et après, on pourra analyser et comparer avec ce qu'il a dit l'an dernier. Mais c'est loin d'être évident que tous nos problèmes soient réglés lundi matin. Et pour le moment, l'Asie ne fait rien et on attend toujours un vrai stimulus de la part des Chinois. On connaît l'histoire. Shanghai est en baisse de 0,24%. Hong Kong fait contrepoids et progresse de 0,23%. Pendant que le Japon s'apprête à remettre les eaux usées de Fukushima dans la mer afin de pouvoir faire des sushis de 9 kg pièce dans 6 mois. Et pendant ce temps, le Nikkei grimpe de 0,7%. Mais il n'y a probablement pas de lien entre les deux. Autrement, les futurs sont légèrement en baisse. Le pétrole est à 80$, l'or est à 1924 et le Bitcoin est toujours dans le coma à 26 000$. Pour ce qui est des nouvelles du jour, on a eu les chiffres trimestriels de Zoom hier soir. Le titre se traitait en hausse de 3,8% after close à 69,82. Et pourtant, je vous jure que le titre n'a pas été splitté. C'est le même titre qui valait 589$ au top de la 6e vague du Covid et de la 4e dose du vaccin de chez Pfizer. Mais bon, on sent que c'est plus tout à fait pareil au niveau du business model, surtout depuis que les managers de Zoom ont demandé aux employés de revenir au bureau. Autrement, dans les autres sujets qui font la une, on notera que Trump va se rendre aux autorités en Géorgie pour avoir manipulé le résultat de la présidentielle, pour autant que ça intéresse encore quelqu'un. Et puis, il y a aussi un scandale en Australie. Tout le monde est choqué parce que le Premier ministre australien a utilisé son influence pour trouver un stage chez PricewaterhouseCoopers à son fils. Il en faut peu pour les choquer, les Australiens. En France, t'as 80% du gouvernement Macron qui a tellement de casseroles au cul que même leurs casseroles ont des casseroles. Mais il faut encore les respecter en tant que ministre et leur lécher les bottes parce que le président Macron fait ruisseler le bonheur sur les Français. Et en Australie, on met le Premier ministre en première page du FT parce qu'il a passé un coup de fil pour son fils. Deux salles, deux ambiances. Autrement, il faudra aussi retenir que l'ETF qui traquait les recommandations de Jim Cramer sur CNBC va fermer parce que Jim Cramer refuse de discuter avec le gérant du fonds. Et puis, il y a aussi le rendement du 10 ans américain qui est à 4,34. C'est plus haut que les plus hauts du mois d'octobre 2022, juste quand le marché a commencé à repartir à la hausse à l'époque. Pour le reste, il y aura les ventes de maisons aux USA cet après-midi et les chiffres du pétrole, version API, qui seront publiés ce soir. Et si vous n'avez pas encore saisi la chose, il va falloir mettre le compte à rebours pour mercredi soir, 22h. Mais en attendant, je serai quand même là demain. On va bien trouver un truc à dire pour brasser de l'air en attendant Nvidia, qui pourrait bien valoir $700 jeudi matin parce qu'ils ont trouvé un nouveau superlatif pour expliquer la croissance de la boîte. Et soyez forts et à demain, si vous le voulez bien.